ça s'est vraiment passé, hein, ce que je vais vous raconter maintenant. Le récit d'une rencontre, d'un dialogue qui s'est passé il y a quelques années entre un pasteur qui faisait une série de visites dans différentes églises États-Unis, dans différentes églises, et un autre homme qui s'avérait être un ancien pasteur. Ça faisait des années qu'il ne s'était plus vu. Et le premier avait été très étonné d'apprendre que le second avait totalement abandonné le ministère. Alors, je prends la situation là où elle se passe. La veille au soir, j'avais prêché dans une église du quartier sur le commandement d'amour de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Mon ami Jean, avec qui je prenais une tasse de thé ce jour-là, y avait réfléchi toute la journée. Il me regarda par-dessus la table, je pouvais lire sur son visage toutes sortes d'expressions. De la colère, de la répugnance, mais plus que tout du désespoir. Il eut un silence, on n'entendait que le bruit du thé qu'il versait dans sa tasse vide. « Je suis sérieux, Malcolm, tu prêches l'amour, mais tu sais bien que personne ne fera ce que tu dis. Je les ai observés hier soir, ils sont d'accord avec toi, ils hochent la tête et louent le Seigneur, ils font la queue pour te serrer la main et te disent combien ils ont été bénis, mais avant d'arriver chez eux, ils seront déjà en train de commérer, de se disputer et de trahir leurs amis. Mais béni soit Dieu, ils ne fument pas et ne boivent pas d'alcool. Il sembla cracher ces derniers mots comme du venin. Il baissa la tête un moment. Lorsqu'il me regarda à nouveau, je vis un homme fatigué et las de la vie, plongé dans le plus profond désespoir. À voix basse, il dit « Voilà pourquoi je suis parti, Malcolm. J'aurais pu aménager mon emploi du temps pour être davantage avec ma famille. Ce n'était qu'une bonne excuse. La véritable raison donc, pour laquelle il est parti est que, trois petits points, il s'arrêta et d'un air morose regarda fixement le brouillard qui s'épaississait au dehors. La véritable raison est que ça ne marche pas, n'est-ce pas Malcolm? Ce ne sont que des paroles et des gestes religieux, mais personne n'est transformé. Il continua, par moments j'avais l'impression d'être une sorte de fournisseur de drogue. L'assemblée et l'église en fait me payaient pour que je leur administre régulièrement des piqûres qui les convaincraient pendant une semaine encore qu'ils devaient essayer d'être de bons chrétiens. Ils s'en allaient croyant que cette fois-ci les choses iraient mieux, mais nous savons que rien ne changera parce que ça ne marche pas. » Il y avait maintenant des sanglots dans sa voix qui s'enrouaient, mais il parlait toujours avec colère. « Voilà à quoi j'ai dû faire face l'année dernière. J'étais pasteur et je prêchais l'Évangile, mais quand il s'agissait de vivre la plus grande partie dans l'enseignement du Nouveau Testament, c'était hors de ma portée. J'ai cependant continué à prêcher en espérant que personne ne se rendrait compte que ma vie était aussi vide que la leur. » Ça ne marche pas. Et si au risque de vous effrayer, je vous disais que notre ami Jean a peut-être raison. Vous ne le savez probablement pas, de très nombreux pasteurs ont fait ce même constat et ont soit abandonné, travaillé dans les assurances, enfin, faut autre chose, quoi, soit continué à faire semblant. J'ai fait, petit quart d'heure, peut-être 2 minutes... personnel. J'ai fait ce même constat il y a maintenant quelques années, et Dieu aidant, au travers d'une crise majeure dans ma vie et d'autres plus petites, j'en suis arrivé à la certitude que nous, l'Église, c'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous, nous avons dû, puisque ça ne marche pas, nous avons dû forcément à un certain moment nous tromper de chemin. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce qui me permet d'affirmer une chose pareille? Tout simplement parce que, après parfois des années de vie chrétienne, nous ne sommes toujours pas des disciples. Parce que nos priorités sont encore et toujours les mêmes, c'est-à-dire pas les bonnes. Comme si Jésus n'était jamais venu, et il n'avait jamais rien dit, et il n'avait jamais rien accompli. Parce que même pour ceux d'entre nous qui s'y engagent, qui tentent l'aventure, quand nous essayons de suivre Jésus, nous sommes souvent découragés et dans l'incompréhension la plus totale. Nous nous sommes trompés de chemin et nous tentons de vivre notre vie selon des règles et des principes qui n'ont jamais libéré ni transformer personne. Alors, je vous rassure, Dieu ne nous a pas menti. Nous nous sommes tout simplement bouchés les oreilles. À l'instant même où je parle, vous marchez sur l'un de ces deux chemins. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Soit vous avez décidé que ce que vous désirez le plus est à votre portée et vous allez tout faire pour l'obtenir. Dans ce schéma-là, ben, vous faites ce que vous voulez et vous construisez votre vie. Vous êtes en contrôle de votre vie. Deuxième possibilité, deuxième chemin. Soit vous avez compris que ce que vous désirez le plus est hors de votre portée, vous faites confiance à Dieu pour vous satisfaire, c'est lui que vous désirez. Lui, rien de moins, pas même ses bénédictions. Ça, mes amis, c'est super important, ça. On ne cherche pas ses bénédictions sur ce chemin-là. On le cherche lui. Le premier chemin, levons le suspense, mais vous l'avez peut-être déjà compris, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne voie. Mais ne croyez surtout pas qu'elle n'est plus à l'ordre du jour. La plupart des chrétiens sont encore sous la loi. Ils vivent encore leur vie, leur rapport à Dieu, sous la problématique de la loi. J'y reviendrai. C'est l'ancienne voie. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les textes, hein, l'ancienne voie. Sur ce chemin, c'est la règle de l'arrangement qui règne. Arrangement avec Dieu, ou si pas, si on ne croit pas par exemple, arrangement avec ce que j'appellerais l'ordre de l'univers. Les règles qui font qu'on réussit sa vie. Mais encore une fois, selon ses principes à soi, ses critères à soi. Cette règle de l'univers est très simple. Et elle est liée à notre cadre de vie spatio-temporelle. Le fait qu'on a, les journées ont 24 heures, que nous ne sommes pas éternels, que nous naissons et que nous mourons. Et cet univers dans lequel nous évoluons est fait de causes et d'effets. D'accord ? Si vous faites ce que vous devez, ça c'est la règle, c'est l'ancienne loi. Si vous faites ce que vous devez, vous obtiendrez ce que vous désirez, soit de la part d'un Dieu moral qui récompense les bons le comportement, soit, si vous n'êtes pas croyant, d'un monde bien ordonné que vous utilisez, que vous apprenez à utiliser efficacement à votre avantage. Dans ce modèle, alléluia, vous êtes aux commandes de votre vie, même si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui la dirige. Tous les chrétiens du monde disent ça, c'est Dieu qui dirige ma vie, mais en fait c'est eux qui la dirigent. L'ancienne voie promet une vie remplie de bonnes choses qui vous rendront heureux. Je ne dis pas qu'on est conscient de ça, mais moi, 99% des chrétiens que je connais, ils fonctionnent comme ça. Et ils sont déçus en permanence. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, et ça, il faut vraiment se le foutre dans la boule, le problème, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Ça ne marche pas. Notre ami pasteur déprimé tout à l'heure a bel et bien raison. Cette voie, mais il n'en connaissait pas d'autres, mais cette voie ne fonctionne pas. Et la raison est toute simple. Vous n'aurez, je n'aurai, jamais le dernier mot dans le marchandage, ni avec Dieu, ni avec les principes élémentaires du monde. C'est un terme qu'emploie Paul dans une de ses lettres. Ça ne marche pas. Dire que je fais A et il va se passer B, c'est dans vos rêves, ça. Je connais Walter depuis 25 ans. Je l'ai beaucoup fréquenté à une certaine époque de ma vie. Pendant cette période, il était missionnaire en Belgique, car il voulait évangéliser les musulmans. Il habitait le petit appartement qui se situait au troisième étage et le coup de l'église où j'étais pasteur, où je devais devenir pasteur à l'époque. En 1997, Walter est parti comme missionnaire auprès des musulmans de Bosnie. Et il y est encore aujourd'hui. Ça fait donc plus de 20 ans qu'il annonce l'évangile aux musulmans. Il y a 3 semaines, il était en Belgique pour dire bonjour et aussi accessoirement pour dire merci à tous ceux qui le soutenaient dans son ministère financièrement, parce que vous savez, les missionnaires, c'est comme les autres, ils ont besoin de manger. Sur le chemin du retour, n'ayant pas de permis, je pense que c'est la raison, en tout cas à l'époque que je l'ai connu, il ne roulait pas en voiture. Ce n'est pas Walter, mais un jeune chrétien qui a pris le volant. Il s'est endormi au volant. Ça remonte à 3 semaines, ce que je vous dis. Il s'est endormi au volant, en Croatie. Le gamin s'est endormi. Il y a eu un accident. Walter a failli mourir. Il est resté dans le coma pendant plusieurs jours, en est sorti, mais souffre toujours de difficultés pour s'exprimer, dues à une hémorragie cérébrale. De plus, c'est la dernière news que je vous donne, même si on a reçu une photo où il avait l'air assis sur son lit, mais ça n'en veut encore rien dire. De plus, les nerfs de sa colonne vertébrale ont été sectionnés. Alors même si plein de chrétiens prient pour que Dieu répare sa colonne vertébrale, il ne faut pas avoir fait médecine, je pense, pour savoir que si vos nerfs, c'est très rare qu'ils soient sectionnés, à ma connaissance, ils sont parfois écrabouillés, parfois mais sectionnés, c'est rare. Ça signifie une chose, j'ai peut-être manqué de foi, c'est qu'il y a une forte chance que Walter reste paralysé. Pour l'instant, il est paralysé des jambes. Il ne bouge plus ses jambes. Ah, mes amis, ce qui arrive à Walter est terrible, non ? C'est terrible quand même. Mais ce qu'il serait encore plus, c'est que Walter soit sur ce fameux chemin dont je vous parle. Pourquoi est-ce que ça serait encore plus terrible pour lui ? Parce que vous imaginez sa prière ? J'ai quitté mon pays, le Brésil, il y a plus de 30 ans pour te servir. Je suis depuis 30 ans loin de chez moi. Je n'ai même renoncé à me marier, etc. Je te consacre ma vie, Seigneur, depuis donc plus de 30 ans. J'essaie de t'obéir et de te servir. Et pour toute récompense, pour toute bénédiction, je me retrouve paralysé. Mais tu devais me bénir puisque je te consacre ma vie. J'espère vraiment, je ne pense pas qu'il soit là. J'espère, je ne pense pas. Connaissant un peu, je ne pense pas qu'il soit là. On n'a jamais le dernier mot dans le marchandage. Personne ne l'a. Alors, si vous avez un doute sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous avez le droit, hein, relisez le livre de Job. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le livre biblique préféré de notre Premier ministre. Job, Job, Job. Vous ne savez pas, ouais. Il faut faire attention à ce qu'il dit le Premier ministre parfois. Je n'ai pas pu m'empêcher. C'est pas... Ouais, parfois, en réflexion théologique profonde, et puis il y a des trucs pareils, ça, je ne vous garantis pas que cette blague-là elle soit du Seigneur ou du Saint-Esprit. Hein. Je ne suis pas certain qu'il ait cet humour-là. Mais il me laisse un peu de place quand même, il est gentil. Hein. Dans le livre, mais vous savez si vous avez lu ce livre. Hein. Enfin, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent parce qu'on n'aime pas ce qui s'y trouve. En fait, je voulais résumer, il y a un seul type super aux yeux de Dieu sur la planète, ça arrive souvent hein, dans certains textes en particulier de la sagesse, il y a un type qui est bien, ça c'est toujours rassurant pour tous les autres, il y a un gars qui trouve quand même un peu d'intérêt aux yeux de Dieu, qui dit ouais, « ce mec-là, il est quand même pas mal ». Donc il y a un type super aux yeux de Dieu sur toute la Terre, et Dieu semble bien lui rendre, puisque Job a une grande famille, il a des amis, de l'argent, même beaucoup d'argent. Autrement dit, tout ce que, assez naturellement, humainement parlant, ce à quoi nous aspirons, en fait. Voilà. Job a tout ce qu'on a envie d'avoir. Il a tout. Et pourtant, Job va trinquer. Il va tout perdre. Et ses amis, parce qu'il en a 3 au moins ou 4, ses amis de lui dire « Tu as forcément dû faire quelque chose de mal pour que Dieu te retire sa bénédiction. » Mais dans ce modèle-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais ce qu'il faut, je te bénis. Tu fais pas ce qu'il faut, je te bénis plus. C'est un peu le modèle, hein. Car il est une question qui est posée, qui fait subtilement son chemin à travers le livre de Job. Job aime-t-il vraiment Dieu ou obéit-il en vue de recevoir ses bénédictions? C'est ça la question du livre. Est-ce que tu m'obéis et que tu me suis parce que tu m'aimes moi et que je suis ton seul amour, ta priorité, ou est-ce que tu le fais pour que je te bénisse? Est-ce que Job aime la crémière ou la qualité de son beurre, si vous permettez l'expression? Vous préférez avoir des cadeaux en dessous de l'arbre de Noël, des centaines de cadeaux ou la présence de papa à Noël? Croyez-moi, la question vaut la peine de poser. Alors, je reviendrai à cette dimension-là, puis on est parti pour un petit temps. Hein, mais la seconde voie, je parlais d'une première voie, la seconde voie, ben, c'est celle, vous m'en doutez, hein, de la nouvelle alliance. C'est celle que Jésus institue. C'est la nouvelle voie. Alors, dans cet arrangement-là, Dieu plante d'abord un désir dans votre cœur. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez ce désir. J'allais plus loin que désir. Il place un soupir, une attente dans votre cœur, qui accorde la priorité à la présence de Dieu plutôt qu'à ses bénédictions. Et il vous invite ensuite à vous abandonner à ce désir de le connaître. Si on n'entre pas dans cette dimension-là, et je vous le dis, je pense que beaucoup n'y sont pas. La vie spirituelle est soumise à un stress suscité par le fait que l'on essaye de vivre à la hauteur des nombres de Dieu, comme le faisaient les Juifs de l'Ancienne Alliance, hein, mais que celle-ci exerce sur nous une pression constante, incessante. On ne se rend pas compte de ça, mais on a une pression tout le temps. Alors, ces normes sont légitimes et basées sur la parole de Dieu, mais personne ne rappelle jamais que c'est Dieu qui nous a équipés du désir de faire ce qu'il veut. Paul, rappelez, Philippiens 2, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est pour ça qu'il ne faut rien faire, qu'on doit attendre sur sa chaise. Mais le socle de tout ça, c'est je veux connaître Dieu lui-même. Quand je dis connaître, c'est intimement. Alors ça va faire pour moi sourire ma petite femme, mais le cantique des cantiques, on ne prêche jamais sur ce livre, mais je sais pourquoi on ne prêche pas, parce qu'on n'y comprend rien. On pense comprendre. Mais en fait, de quoi parle ce livre? Il parle que de désir, en fait. C'est le livre du désir de la Bible, Cantique des Cantiques. Mais quel désir? Le désir de Dieu. Ce désir de Dieu qu'il a placé en nous par la présence de son esprit. dont un des rôles est d'attiser ce désir. C'est le début, c'est le premier, c'est le des premiers versets du chapitre 1 du Cantique. Qu'il m'embrasse, et c'est, on y va, hein, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin, tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Ça parle du désir de Dieu, mes amis. Alors, il y a une très mauvaise nouvelle pour nous, qui aimons tout contrôler. C'est que sur ce chemin-là, vous contrôlez rien. C'est bien, puisque c'est un leurre. Vous pensez contrôler quoi que ce soit, vous êtes mal partis, les enfants. Vous ne contrôlez plus rien. Vous n'êtes plus aux commandes de rien, mais vous êtes libre. Quand je vous dis qu'on choisit le bonheur plutôt que la liberté, c'est ça notre problème. On veut être heureux, mais le bonheur, la recherche du bonheur, ça n'a jamais rendu personne de libre. Pourquoi vous croyez que la démocratie se casse la gueule? Parce que tous ces imbéciles veulent être heureux. Il y en a deux, trois qui savent le prix de la liberté parce qu'ils l'ont payé très cher, et ceux-là, ils se battent pour qu'on reste libre, mais les autres veulent être heureux. Un mec qui veut être heureux, il peut être heureux en dictature comme en démocratie. Ça n'a aucune des différences. Rappelez-moi Dostoïevski. Si on proposait au peuple de choisir entre la liberté et le bonheur, il serait capable de choisir le bonheur. Mais on choisit le bonheur. Mais c'est un leurre. Vous ne pouvez pas garantir votre bonheur. C'est qu'au moins qu'une catastrophe, ça détruit tout. Même si vous avez encore plein de trucs autour, hein, une seule catastrophe et votre bonheur est par terre. Et là, c'est Seigneur, pourquoi tu permis ça? La voie nouvelle ne promet que deux, et c'est pas mal, hein, deux choses. Jésus n'a jamais promis que deux choses. Mais apparemment, on ne lit pas le même évangile. Hein. La présence de Dieu, vraiment, mais vraiment, hein, et une meilleure espérance, mais pas ici. Et une meilleure espérance, mais pas ici. Mais cette voie-là, la nouvelle alliance ne promet pas que les choses iront bien selon les critères de ce monde. Les martyrs, vous allez me dire, bon, je vais prendre un cas extrême, mais les martyrs de l'histoire de l'Église n'ont pas vraiment réussi, hein, selon les principes de ce monde. On parle de bonheur, d'être heureux. Les martyrs, mais ils ont connu le Christ intimement et étaient forcément pleins d'une extraordinaire espérance. Cette voie nouvelle inaugurée par Jésus et sur laquelle il nous invite à le suivre promet la proximité avec Dieu et elle tient parole, ça je vous le garantis. Vous prenez ce chemin-là, c'est le seul que Jésus propose, hein. C'est le seul qu'on ait, même si on se trouve sur une autre. Hein. On prend ce chemin-là, vous connaîtrez le Christ. C'est garanti. Pas nécessairement tout de suite. Et souvent au travers de difficultés et de souffrances, mais celles-ci sont inévitables. Mais cette voie-là tient parole. Ça va, je sais bien que c'est du lourd. Hein. Abordons maintenant le cœur de notre problème. On va tenter de démasquer. Alors, comme toujours, quand on se pose ce genre de questions, il y a toujours des réponses. Hein. On va prendre une parabole qu'on n'aborde pas souvent, je pense. Parabole de Jésus, bien entendu, c'est un enseignement qu'on retrouve dans les trois synoptiques, dans les trois premiers évangiles. J'ai pris la version relatée par Marc. Les disciples de Jean, donc de Jean-Baptiste, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le mari est avec eux? Aussi longtemps que le mari est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le mari leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Je pense que le sens de cette parabole nous éclaire, je pense, sur le fond de notre problème, il me semble en tout cas. La vie nouvelle dont Jésus est la source, il dit souvent « je suis la source », etc. La vie nouvelle dont Jésus est la source est inconciliable avec les vieilles institutions, entre autres de la loi de Moïse, les jeûnes, les cérémonies, etc. Pour cette vie nouvelle, il faut de nouvelles formes, que cette vie sera bien créée par elle-même. La vie abondante que nous promet Jésus n'est pas une servitude, un esclavage, qui consiste à attendre d'être rémunéré pour bonne conduite par un Dieu qui rétribue ici-bas les bons chrétiens en les couvrant de bénédictions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si on prend Jésus lui-même qui instaure cette voie, il meurt sur une croix. Pierre le dit, ne vous attendez pas à avoir un autre chemin que celui de votre maître, le Christ, car lui-même a souffert afin de vous laisser un exemple, afin que quoi ? Que vous suiviez cette trace. Si mon maître va à la crucifixion, il y a de fortes chances que j'y aille aussi. Donc, la nouvelle source de Jésus, ce que je suis, la nouvelle alliance que je crée à travers ma mort et ma résurrection est inconciliable avec toutes les conceptions de Dieu qu'on a pu vous vendre pendant tout. Ça ne marche plus de la même manière. Donc cette conception de Dieu est totalement inconciliable avec la liberté annoncée par l'Évangile. Et les deux ne peuvent pas subsister ensemble, même si beaucoup de chrétiens, sans en être conscients, tentent cette réconciliation en permanence. Prétendre qu'il y a moyen de concilier les deux n'est pas seulement une vaine tentative, mais c'est une chose nuisible et ça amène à ce désespoir, comme notre pasteur de tout à l'heure. Et c'est ce que dit Paul aux chrétiens de Turquie. D'ailleurs, j'ai cité ce verset la semaine passée, je pense. Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Vos propres forces, c'est la loi de Moïse. Dieu a des exigences, je vais tout faire pour être béni en répondant à ces exigences. Ça ne marche pas. Et c'est Jésus qui le dit. Haut et fort. Si vous tentez de vivre votre vie relationnelle à Dieu sur ce principe-là, la déchirure est pire, le vin et les outres, dit Jésus, se perdent. Autrement dit, c'est grave, hein, la vie divine, le vin, et l'outre, la personne qui contient cette vie, se perdent, se répandent, ça ne marche pas. Et ils sont à sec. Parce que cette vie coule et elle s'écoule par terre, c'est terminé. Et on est déprimé, on ne comprend rien, on en veut à Dieu, on en veut au monde entier, on ne vient plus à l'église, le pasteur est un con, et voilà. Jésus n'est pas venu, nous dit-il, pour accommoder ce qui était vieilli et usé, mais pour créer un monde digne de Dieu et de l'homme régénéré en lui et par lui. Alors la plupart des chrétiens qui fréquentent les églises, et ce n'est pas un jugement de ma part, puisque j'en fais partie, soyons clairs, adopte une version religieuse de l'ancienne voie. Ce n'est plus tout à fait la voie de Moïse, on va plus circoncis, etc., mais c'est le même principe religieux. Ils mélangent l'ancien et le nouveau. Ils font exactement ce que Jésus dit de ne pas faire. Donc on va le redire encore une fois avec force. La nouvelle alliance ne cherche pas à sauver ce qui peut l'être de l'ancienne, elle veut la remplacer. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire « moi je remplace l'ancienne alliance » Parce qu'il l'a accompli l'ancienne alliance, par sa vie parfaite. C'est bon, passez à autre chose, il n'y a que moi qui pouvais le faire. Alors je vais donner quelques exemples pratiques, et je pense, je pourrais en citer des centaines, représentatifs du comment se présente ce mélange de l'ancien et de nouveau. Si vous voulez des enfants irréprochables, élevez-les selon des principes chrétiens. Ils vont peut-être mieux ce principe-là que d'autres, nous sommes bien d'accord, Mais qu'est-ce qu'on attend là? Puisque je fais A, il va se passer B. Bon courage. Si vous voulez un bon mariage, achetez un livre qui vous explique les principes bibliques d'un bon mariage et essayez de vous y conformer le plus possible et votre mariage sera magnifique. Ah ouais? Sans blague. Parfois, mais la plupart du temps, j'ai entendu ça des centaines de fois dans les églises et par des responsables d'église. Tu veux que tes enfants obéissent et soient des enfants dignes du Seigneur, fais un culte avec eux tous les jours. Ben, c'est ça avec ma fille, tiens, vous rigolez un coup. Non, mais c'est vrai. Si vous voulez que Dieu bénisse votre ministère, respectez les principes spirituels du leadership. Faites tout ce qu'on vous dit de faire et vous aurez le résultat escompté. Ben, j'ai déjà dit souvent, je prêche. Et les gens changent. Là, tiens. Si je continue à prêcher, peut-être parce que j'ai toujours pas compris que ça ne marche pas. Terrible. terrible. Si un jour, dimanche, je m'assieds comme vous et je me lève pas, dites-vous que, il a peut-être commencé à comprendre que, voilà. Si vous voulez des amis, apprenez à vous accepter vous-même et à être vulnérable, authentique et animé d'un esprit de pardon. Très biblique. Tout ça est biblique, hein. Alors, mes amis, toutes ces affirmations sonnent justes. Non, c'est. Ça sonne juste. Vous vous dites, ouais, mais non, pas tout à fait, parce que vous, vu tout ce que j'ai déjà dit, vous vous dites, s'il le balance comme ça, c'est que pour lui, ça n'est pas si juste que ça. Mais objectivement, ça sonne juste. Ça sonne juste parce que toutes ces affirmations correspondent tout à un schéma de sécurisation dont nous pensons avoir besoin. On a des gosses, on ne s'en pleure pas trop, donc on essaie de rester biblique avec nos enfants en disant, comme ça, j'ai peut-être une chance qu'il arrête de hurler, de désobéir. Voilà. Et dans ce schéma, mais vous l'aurez probablement remarqué, c'est toujours nous qui sommes aux commandes, puisque c'est à nous à faire toutes ces choses. Donc quand ça ne marche pas, il se passe quoi, vous croyez ? Qu'est-ce que j'ai raté, quoi ? Alors je ne dis pas que des parents ont raté des trucs, hein, moi le premier. Hein. Des parents me disent quand le gosse tourne mal, ou j'ai raté, ça me rassure. Parce qu'il y a des parents qui disent, oh, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, moi je ne comprends pas pourquoi ça tourne comme ça, ça m'inquiète aussi. Hein, mais la pression est sur nous dans ce modèle-là, tout le temps. Il me semble. Hein. Si nous vivons selon l'ancienne voie, l'ancienne, hein, nous croyons, croire hein, dans le sens foi, nous croyons à la loi de la linéarité. Une loi donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui veut qu'il y ait un A qui aboutisse à un B que vous voulez atteindre. D'accord ? Si je passe du temps de qualité avec mes enfants, si je les aime vraiment, ils m'aimeront en retour. Parfois, mais pas toujours. Les enfants aimaient toujours tous leurs parents comme il faut, on fermerait des homes, hein, alors qu'on en ouvre de plus en plus. Hein. Moi, je suis un gars horriblement pragmatique pour tout ça, hein, je suis désolé. Hein. Mes parents sont dans un home aussi, hein, voilà, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais je me dis que si c'était vrai, ben, jamais on tape les vieux, allez, dégage. Merci pour tout, hein, dégage, allez, dans un home. Je ne dis pas que parfois, c'est, voilà, on ne peut plus les prendre chez nous, etc. Je pense qu'on a essayé de cette anecdote véritable. Hein. Une famille qui prend le grand-père à la maison, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, déjà, la famille prend des pieds. Il y a trois enfants. Un jour, ils sont à table. Et le papy, ben, il schlurpe ça un peu en mangeant sa soupe, parce que je ne supporte pas non plus les bruits de bouche. Hein, donc voilà, ce n'est pas un jugement non plus. Et à un moment, il fait tellement de bruit à table que finalement, ils lui mettent vraiment une bavette et ils font confectionner hein, une sorte de... Vous voyez, comment ça s'appelle encore ? On place les enfants pour manger là, quand ils sont tout petits. J'espère, voilà. Et puis même avec sa chaise, il en fout en cours partout. Ouais, alors le père, qui est un peu bricoleur, construit une cabane dans le fond du jardin et il tape le grand-père dans la cabane. Puis les jours, les semaines passent et un jour, il y a le père de famille qui voit un de ses trois fistons, il y a trois fils, le plus jeune arrivé avec un marteau et des clous. Il dit, qu'est-ce que tu veux avec ce marteau et ces clous ? Il dit, je vais te construire une cabane dans le fond du jardin pour te mettre quand tu seras vieux. L'exemple venait d'en haut. Donc, dans ce modèle, il faut être clair, hein, la pression est sur vous. Hein. Dans ce modèle, écoutez bien, c'est important de comprendre. Dans ce modèle, Walter, mon missionnaire brésilien, ne peut pas avoir un tel accident. Il ne peut pas avoir, ce n'est pas possible que ça arrive. Il a bien compris ce que Dieu attendait de lui, le A. Un engagement total. Et il a tout mis en place, études, engagements, sacrifices, pour que survienne le B, la bénédiction de Dieu. Alors, dans le cas d'un gars comme Walter, ou dans mon cas à moi, la bénédiction, ce n'est pas des tues, on s'en fout de ça. C'est que ça fonctionne, que les gens grandissent dans leur foi, que lui, il y a des musulmans qui viennent à la foi chrétienne, c'est ça la récompense. Mais elle ne vient pas. Et alors, encore moins, si on a un accident de voiture, on se trouve paralysé. Hein. Si on attend le B et que c'est un accident de voiture qui vous paralyse, vous imaginez le schéma ? Dans ce schéma-là, ben Walter, il est mort, quoi. Si Walter est dans ce modèle, il va se demander ce qu'il a fait de mal pour mériter ça et se mettre en plus une pression terrible, vous imaginez ? Ou, alors il va en plus en vouloir à Dieu de ne pas avoir tenu ses promesses. Dans le livre de Job, c'est un peu ce qui se passe, hein, même s'il tient bon, notre ami. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel. C'est du lourd, hein? Sortir ça, il faut être solide, hein? Les personnes qui vivent, il y en a, hein? Pas assez, mais il y en a. Les personnes qui vivent selon la voie nouvelle, elles croient en la loi de la liberté. Ils viennent vers Dieu tels qu'ils sont. En fait, ils n'ont plus aucun espoir en eux-mêmes. Ils ne se lavent pas avant de venir, si je peux dire. Ils ne se récurent pas. Ils viennent justement pour que Dieu les lave, pour que Dieu leur fasse du bien. Ils ne subissent aucune pression pour changer leur vie intérieure ou leur vie extérieure. Les bénédictions, ils s'en tapent. Mais ils désirent néanmoins changer véritablement dans les deux domaines, parce qu'ils savent que c'est ce que l'Esprit produit en eux. Ils sont prêts, s'il le faut, à faire, je fais référence à deux textes de l'Ancien Testament, qui m'ont toujours fort interpellé, ils sont prêts, si Dieu leur demande, hein, à faire 7 fois le tour d'une ville, comme des andouilles, tous les jours, en sonnant de la trompette, et en espérant que les murs tombent, parce que Dieu leur a dit. Je ne sais pas si vous auriez fait ça, moi j'aurais un doute. Hein. Tu veux que je fasse quoi là? Tu as déjà vu, j'ai mes épées, mon casque et tout, je suis une grosse bébête. Non, non, tu vas laisser tout ça, tu vas tourner en jouant de la trompette autour de la ville, et les remparts vont s'effondrer. Sans blague. Ou alors le général syrien, là. Ils sont même prêts, ces gens-là, à se plonger 7 fois de suite dans un fleuve boueux, le Jourdain en l'occurrence, en espérant guérir de la lèpre. C'est une allégorie, bien sûr, ce que je dis. Questionne pas la pensée de Dieu. Ils l'aiment. Ils le savent. Donc tout ce qu'ils demandent, c'est par amour. Donc ils y vont. Ils vivent en permanence pour satisfaire le désir le plus profond de leur cœur. Connaître Dieu et trouver en lui leur bonheur. En lui. Nulle part ailleurs, en lui. Qu'est-ce que Paul dit? Tout ce que j'étais, tout ce que... Et c'était pas rien ce qu'il était. Hein. Il dit, et c'est le grec qui le dit, c'est Paul qui le dit en Philippiens. Tout ça, je l'ai considéré comme des ordures afin de gagner quoi? Des bénédictions? Non, non, afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Le reste, il s'en fout, Paul. Il s'en fout. Alors, les hommes et les femmes qui sont sur cette nouvelle voie ne vivent donc pas pour obtenir une meilleure vie dans ce monde. Et lorsque les choses vont mal dans leur vie, parce que forcément, ça va arriver, ce n'est pas possible autrement. Quand tout s'écroule ici-bas, ils révèlent de façon encore plus éclatante qui ils sont, des citoyens d'un autre monde. Ils ne veulent en fait que ce que ce monde-ci ne peut pas offrir. Dieu lui-même, et c'est ça, la loi de la liberté. Vous avez un autre désir que celui-là dans votre cœur, c'est à vous à faire le check, hein, le scanner, hein. Vous êtes sous l'ancienne voie. La plupart d'entre nous, je pense, hein, c'est pour aider tout le monde que je dis ça, hein, la plupart d'entre nous vivent selon l'ancienne voie, malgré le vide que cela induit en nous, parce qu'il y a du vide, hein. Puisque nous comblons tous ces manques par la compensation, en bourrant ça de plein de trucs, hein, qui peuvent paraître très légitimes. Hein. Tout, mais pas Dieu. Alors que la place a été faite, hein, pour que Dieu y soit. Mais on bourre ça un peu comme, prenez le temple de Jérusalem avec l'autel, et plutôt que d'avoir nous-mêmes sur l'autel, ben on bourre ça avec la famille, les bagnoles, les richesses, un bon boulot, que tout le monde va bien, et patati, voilà. Moi, je connais des familles chrétiennes. Un père qui est venu me voir en me disant « Il y a une catastrophe avec l'aîné. Il y a 4 gosses. Hein. » Moi, je connaissais l'aîné assez bien et je l'avais encore vu samedi au club de jeunes. Donc, j'ai une catastrophe. Il s'est passé contre la nuit de samedi à dimanche. Quoi. Il y a un veut faire des études théologiques qui veut servir Dieu. Le père, effondré. Effondré. Il n'y a pas de débouché là-dedans. Chrétien. Ancienne voie. Si ma fille me sortait... Je m'avance, hein, je vais être missionnaire. Hein. Alléluia! Mais vraiment, hein, ça m'étonnerait, hein, c'est pas bien parti. On ne sait jamais. On sait jamais. Ouais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Enfin, soit. Donc, la plupart d'entre nous, vraiment, je pense, vivent selon l'ancienne voie. Alors qu'ils ressentent ce vide, hein, cette incapacité à faire. Parce que nous voulons être heureux. Et au lieu de cela, nous ressentons la pression et l'insatisfaction. En fait, on est, je termine par ça, on est très loin de cette fabuleuse promesse de Jésus. On va peut-être la reprendre. Et peut-être avant, alors je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on vit, quoi? Si on est sur l'ancienne voie, on ne vit pas ça. Et le résultat est le découragement, l'incompréhension. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois faire pour mériter que Dieu soit présent dans ma vie, pour être intime? Alors je ne dis pas qu'il faut ne rien faire du tout, hein, qu'on doit simplement se coucher par terre en attendant que Dieu nous fasse du bien. Hein. Mais la plupart des gens ne vivent pas ça. Et on se dit, ah, l'Église ne pas ceci, l'Église n'est pas assez cela, mais l'Église c'est nous. Si je ne suis pas sur cette voie-là, je suis sur l'autre, et je ne vais pas bien, donc l'Église n'ira pas bien. Ce sont des gens, l'Église, ce ne sont pas des pierres. Ben oui. Heureusement, il existe, parce qu'on serait là, hein, on se dit, ça c'est pas possible, c'est des couillonnades. Il n'y aurait que l'ancienne voie, on serait mal. Hein. Non, il y a une autre voie. On en reviendra dimanche prochain. J'espère qu'à la fin du truc, vous aurez peut-être une réflexion qui vous dit, bah, tout compte fait, on va peut-être essayer l'autre côté, hein, l'autre voie, cette voie-là. Elle n'est pas facile non plus, mais pour de bonnes raisons. Mais je ne vais pas anticiper. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.